bonjour à ceux qui veulent bien regarder les émissions de l'Institut des Libertés Média. Vous savez, il y a à peu près 6 mois, je crois en juin, je vous avais dit qu'on allait créer un média visuel, parce que, bon, l'Institut des Libertés marchait bien, mais apparemment, dans les générations un peu plus jeunes, les gens ne lisent plus tellement et écoutent beaucoup. Ils écoutent YouTube, ils écoutent Facebook et tous ces trucs-là. Donc on avait dit, on va essayer de créer un média nouveau, l'Institut des Libertés Médias. Et l'idée, c'était dans le fond de faire parler des gens qui avaient du mal à parler dans les chaînes officielles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire parce qu'ils n'étaient pas invités en général. Parce que tout le monde sait de qui je parle. Et donc on a créé ça, ça fait 6 mois, donc on a pas mal de gens qui sont venus déjà nous parler, on a interviewé pas mal de gens, on a interviewé Charles Pratt, on a interviewé d'autres personnes. Et maintenant je voudrais vous annoncer le lancement d'une série régulière d'émissions que l'Institut des Libertés va faire avec contribuables associés. Alors, contribuables associés, c'est des gens qui sévissent depuis pas mal de temps, si je peux me permettre. Et je vais vous laisser donc, Eudes de Beaufreton, décrire un petit peu ce qu'est contribuable associé, et ensuite comment nous allons prendre la parole pour vous expliquer comment nous allons travailler ensemble. Et bien entendu, comme toujours, écoutez, si vous en avez envie, vous envoyez des emails à Franck, vous connaissez tous l'adresse de Franck, et pour que vous puissiez poser des questions lors de ces émissions, parce que l'idée, c'est pas qu'on veut vous annoncer parce que nous, on sait, c'est qu'on voudrait aussi que vous nous expliquiez ce dont vous souffrez sur le terrain et de remonter vers vous, que de façon à ce que ce soit une route à deux voies, pas une route à une seule voie et avec un sens interdit. Donc, Eudes, vous allez nous expliquer un peu ce qu'est contribuable associé. Je vous rends vos documents parce que vous allez les montrer, pour montrer ce que vous faites. Vous avez été beaucoup dans l'écrit vous-même.
Ouais, tout à fait.
Et dans le lobbying sur les pouvoirs publics.
Tout à fait. Bah, écoutez, d'abord, merci Charles de nous inviter.
Je vous en prie, ça fait un grand plaisir.
Dans votre émission
qui sera la nôtre après,
et donc qui va nous donner l'occasion de parler des dépenses publiques et de finalement où est-ce qui est passé le pognon, on peut le dire.
Oui, puisque la grande question, c'est où passe notre pognon.
Exactement.
Parce que c'est quand même la question essentielle, quoi.
Et c'est une question intéressante parce que l'opinion publique, on a l'impression qu'il n'y a pas d'argent public en France, alors qu'en réalité, il y a quand même 57% du PIB qui est absorbé par la sphère publique, et donc l'argent est bien...
On est plutôt à 60% aujourd'hui, compte tenu de la baisse du secteur privé.
Exactement, quoi. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'argent public en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent dans les hôpitaux, dans la fonction publique...
Ce que vous dites est très intéressant, parce que en parallèle avec cette ou pas cette pognon, quand vous allez dans le commissariat, c'est la misère, dans les hôpitaux, c'est la misère, dans l'armée, c'est la misère, dans la diplomatie, c'est la misère, dans l'éducation, c'est la misère. Donc, ils nous prennent un pognon noir et rien ne marche.
Et c'est exactement ça. Et les gens ont l'impression qu'il n'y a pas d'argent finalement et que c'est le secteur privé qui absorbe tout et qui profite de ses dividendes à la fin de la journée, alors qu'en réalité, c'est totalement faux.
C'est totalement faux, oui.
Et donc, contribuable associé est né de cette idée qu'il y a plus de 40 ans, un État ne pouvait pas dépenser plus d'argent qu'il n'avait de recettes fiscales, ce qui est le cas, puisque le dernier budget en déficit a été voté en 1974. Donc, il y a un déficit chronique en France, c'est-à-dire que l'État français n'est pas capable de maîtriser son budget comme le fait n'importe quel ménage ou entreprise qui sinon ferait faillite.
Et la contrepartie de ces déficits budgétaires, c'est bien sûr une dette qui devient absolument considérable.
Abyssal.
Parce que la somme des déficits, c'est la dette.
Bon, on sera à 3000 milliards à la fin de l'année. Là,
oui. Tout à fait.
3000 milliards d'euros. Ouais.
Alors, contribuables associés, donc, c'est une association de citoyens qui s'est constituée pour dénoncer finalement, non pas une forme de spoliation, mais en tous les cas pour dire l'argent public, c'est notre argent, et donc on doit avoir voix au chapitre et on doit pouvoir donner... notre avis. Donc, on a à peu près 350 000 membres, ce qui est assez important. Alors, il y a des donateurs,
il
y a des sympathisants.
Écoutent.
Exactement.
Les membres de contribuables associés, un, vous écoutez, et deux, vous inscrivez à l'Institut des Libertés. Il ne faut pas rigoler. Hein.
Exactement. Et puis, on va leur demander de réagir, parce que c'est à vous qu'on s'adresse, et donc on a besoin d'avoir votre avis.
On fait ça pour vous. Hein.
Exactement. De savoir pourquoi vous n'êtes pas d'accord ou d'accord avec telle mesure, ce qui vous choque, comment on pourrait faire. Et donc, c'est avant tout une émission citoyenne pour des citoyens et des Français. Donc voilà ce qui est contribuable associé. Ça malheureusement le vent en poupe, j'allais dire, parce qu'on préférait finalement avoir moins de succès. Ça voudrait dire que la France va bien, mais finalement ça va pas bien et donc il faut le dénoncer.
Il y avait un grand économiste français qui s'appelait Bastiat au 19e et qui racontait l'histoire d'un ministre qui devenait le ministre de l'Industrie et du Commerce. Et puis comme il prenait toutes les mesures pour que le commerce et l'industrie marchent bien, qui était intelligente, au bout de 6 ou 9 mois, ils donnent la démission parce que on n'avait pas besoin d'un ministre de l'Industrie et du Commerce. Et à partir du moment où on les laissait tranquilles, c'est tout ce dont on avait besoin. Donc, dans le fond, rien ne vous ferait plus plaisir que de dissoudre contribuables associés avec la France en surplus.
Quoi. Exactement. Complètement. C'est l'objectif. C'est l'objectif de contribuables associés.
Est-ce que je peux vous dire que vous avez échoué lamentablement?
Non. Parce qu'il y a des forces en présence. Alors, justement, ça va me donner l'occasion de répondre à cet argument. Il faut quand même savoir qu'en France, il y a 6 millions de fonctionnaires qui vivent d'argent public. Il y a beaucoup de gens qui bénéficient d'aides et donc qui ont finalement maintenant besoin de cet État. Et c'est, je crois, le jeu vicieux qu'a joué l'État, me semble-t-il, presque mafieux. Hein, c'est-à-dire qu'on a besoin du dealer qui fournit la drogue et on a bien compris que c'était aussi l'État qui donnait des aides et que c'est une manière d'acheter un petit peu la population.
C'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence, c'est-à-dire.
C'est exactement ça. Et donc les forces en présence sont tellement importantes et en nombre et en intérêt que finalement, la lutte en face est extrêmement difficile. Et on a besoin, nous, de se réunir pour mener la bataille. Quoi.
Oui, mais alors, la façon dont ça va se passer, c'est donc, aujourd'hui, on va faire notre première émission, et je vais être le premier de vos invités, si vous me permettez. À partir de maintenant, vous êtes chez vous, et je vais vous poser des questions que j'ai pas préparées, d'ailleurs, donc je sais pas ce que je vais vous dire, mais ça, c'est pas grave, elles viendront. Et ensuite, vous aurez une émission par mois où vous traiterez un sujet relativement à fond, en fait, mais un sujet seulement sur la question dont où passe notre pognon, c'est-à-dire un gaspillage particulièrement invraisemblable, du style de celui de Charles Pratt, etc. Donc, l'idée, c'est que vous allez avoir une émission par mois dans ces locaux ici. Je ne serai pas présent, sauf si vous m'invitez. Et ce sera à vous, en quelque sorte, d'animer et d'aller chercher les gens et de leur demander... Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à partir de maintenant, vous êtes chez vous et cette émission est la vôtre. C'est plus la mienne. Moi, je fais le boulot de vous fournir les locaux, etc. Puis ensuite, c'est à vous de faire tourner la bécane. Donc, la première des questions qu'il faut poser ici, c'est... Il y a quand même... La démocratie au départ, ça s'est passé en Grande-Bretagne vers ce qu'ils appellent la glorieuse révolution, un siècle avant la nôtre, c'est 1689, où ils ont décidé que les impôts seraient votés par ceux qui les payent. Voilà. Enfin, la première étape de la démocratie, c'est le vote de l'impôt, c'est-à-dire le contrôle des dépenses de l'État par la population. Mais quelque part, c'est inscrit dans la Constitution française, je crois d'ailleurs, ce principe. Mais le problème, c'est que la dette, c'est de l'impôt différé. Donc, ces gens-là ont le droit d'émettre de la dette comme des fous, et c'est-à-dire que vont rembourser cette dette des gens dans 20 ans, nos enfants, nos petits-enfants, qui n'ont pas voté pour ces impôts, et qui ne bénéficieront pas de la dépense, en quelque sorte. Donc, nous sommes en face d'un dévoiement complet de la démocratie. Nous sommes passés de la démocratie à... au populisme le plus exacerbé. Donc, quelles mesures prendre presque au niveau global, macroéconomique, pour qu'on retourne vers une démocratie? Parce qu'encore une fois, tout ce dont nous souffrons, c'est d'une absence de démocratie. C'est-à-dire que le peuple n'est pas responsable. Le peuple n'est pas souverain. On lui impose des choses pour lesquelles il n'a pas voté et sur lesquelles il n'est pas d'accord. Donc, il faut retourner vers la souveraineté. Et quel genre de proposition vous feriez si quelqu'un vous le demandait, ce qui n'est pas le cas?
Alors, avant de répondre, je voudrais présenter Jean-Baptiste Léon, qui est le directeur des publications de Contribuables Associés, et donc qui a publié dernièrement le Livre Noir des Gaspillages, qui est...
Ça me paraît très petit, hein.
C'était voulu, 100 pages, sans gaspillage. Le but du jeu était vraiment de taper le plus fort et de toucher le plus grand public possible. Donc on n'a pas voulu refaire ce que fait la Cour des comptes. On a mis beaucoup de visuels, des textes courts, mais je pense qu'on a réussi à trouver notre public parce que ça s'est très bien vendu.
Tous les deux ans.
Et donc on parle à peu près de tous les gaspillages qui puissent exister, c'est-à-dire dans les palais de la République comme dans le plus petit village de 500 habitants, quoi. Donc on a fait un petit tour d'ensemble.
Mais gaspillage, c'est à mon avis un mot un peu doux. Parce qu'il n'y a pas que du gaspillage.
Il y a la gabegie,
il y a de la fraude.
Il y a la fraude, exactement.
Il y a du vol.
Du clientélisme.
Du clientélisme. Donc,
tout à fait.
C'est pas, le gaspillage, c'est bon, on dit, bon, il gaspille un peu, c'est pas mal.
De la corruption.
De la corruption, mais quand vous avez 51 milliards ou 52 milliards, comme le disait Charles Pratt, eh ben écoutez, on parle plus de gaspillage, là. On parle, c'est plus important que le budget de la défense en France, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, faut pas rigoler, quoi.
Bon, nous traitons notamment des fraudes aux retraites hein, dans ce livre noir.
Donc, que les Algériens qui ont 125 ans.
Exactement, ouais. 117, le doyen de l'immunité. Oui.
Alors l'idée justement c'est de matérialiser parce que comme vous le disiez Charles, on a une dette qui explose, c'est-à-dire qu'on a des dépenses publiques qui sont non financées. Et nous ce qu'on entend souvent chez Contribuables Associés, il y a des gens qui nous disent mais on a besoin de dépenses publiques. C'est vrai, il y a de la dépense publique utile et puis il y a aussi beaucoup de dépenses publiques inutile, et c'est celle-ci en fait qu'il faut chasser, parce qu'on a bien compris qu'on avait
un minimum. Bien sûr, il faut chasser les dépenses inutiles, mais en même temps, on a besoin de dépenses publiques, c'est la vieille théorie keynésienne que la dépense crée l'offre, ce qui est une imbécilité, ce qui crée l'offre, c'est une augmentation de l'épargne et une invention nouvelle, si vous voulez. Par exemple, donner du pouvoir d'achat aux Français non gagnés, ils vont acheter des iPads, des téléphones faits en Chine ou en Suède et des voitures allemandes. Donc, si vous voulez, cette idée que si l'État dépense, il empêche l'économie de rentrer dans sa récession, dans ce cas-là, on se demande pourquoi l'Union soviétique s'est pété la gueule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas oublier que dans cette crise dans laquelle on est, il y a une erreur logique totale qui est que l'État est créateur de richesses. Donc l'idée, c'est qu'il faut que l'État fasse son boulot. Et je suis libéral autant qu'on peut l'être, mais je dis aux gens partout, le but de tout changement en France, c'est de restaurer l'État. C'est-à-dire de faire un État fort pour tout ce qui est de ce qu'il doit faire.
Régalien,
ouais. Et qui nous foute bien la paix partout ailleurs. Quoi, parce que...
ce qu'on dit souvent à Contribuables Associés, un État fort mais pas obèse. Quoi.
Voilà. Mais il est faible cet État qu'on
il
a
est faible,
et
ouais,
on le voit dans la rue, on le voit dans les négociations internationales, il est faible.
Faible là où il devrait être fort, et fort, là, fort face au faible.
Enfin, il est énorme, là, il empêche les gens de bouger tellement il est gros, quoi.
C'est la parabole, hein, je veux dire, effectivement, quand on est en surpoids, on a du mal à, effectivement, à amener une course, alors que quand on est plus en forme, forcément, ça permet, effectivement, d'être compétitif, et c'est un vrai sujet en France. D'ailleurs, quand on regarde un peu à l'étranger ce qui se passe, on se rend compte qu'en France, on est les champions du monde du niveau de dette publique par habitant, et puis de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire qu'en France, on coche toutes les mauvaises cases. C'est aussi pour ça que nous, on s'intéresse, comme on l'a fait dans cette étude sur la dette, d'aller voir ailleurs ce qui se passe et pour casser une idée reçue que la France serait un bon élève d'un point de vue économique et que finalement l'État soutient l'économie. En fait, c'est l'économie qui soutient l'État et pas l'inverse. Or, aujourd'hui, ce qu'on entend avec la crise Covid, avec le maintien des salaires, etc., c'est que c'est l'État qui vole au secours. Mais en fait, un euro dépensé par l'État est un euro payé par le contribuable. J'ai même presque envie de dire un euro et demi payé par le contribuable. Parce qu'en réalité, il y a l'euro.
Plus tard.
Il y a l'euro, exactement. Et puis, il y a ce qui sera payé plus tard. Et donc, en fait, c'est bien plus grave, quoi. C'est-à-dire, quand on perçoit quelque chose de l'État, c'est un euro et demi payé. Et l'État, c'est un peu donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure. Et on est aujourd'hui dans cette situation-là.
On est exactement
ce et ce que démontre là. Cette étude ici, c'est que finalement, les Français aujourd'hui ont plus de dettes que les Grecs en avaient à l'époque, et que ce qui se dessine aujourd'hui, peut-être, c'est une mise sous tutelle de la France, et on le voit bien d'ailleurs dans la commission qui est en train de se mettre en place.
La commission Arthuis.
La commission Arthuis, c'est qu'il y a des étrangers qui, à l'époque, étaient ceux qui avaient mis la Grèce sous tutelle dans le cadre de la Troïka, qu'on connaît, et donc aujourd'hui, il est urgent finalement de mener un plan de réforme. Donc vous disiez, quelles sont les propositions de contribuables associés? Ce serait déjà de mener un plan de réforme de l'État, ce qui nous paraît indispensable.
Pour il faut couper les dépenses inutiles, les dépenses de l'État, c'est absolument évident. Et ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est l'importance, dans le fond, d'une économie saine. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, Thatcher et Mitterrand, c'était arrivé il y a quelques années, mais certains d'entre nous s'en souviennent. Et donc les gens disaient, Thatcher a coupé les dépenses sociales de façon abominable, parce que Mitterrand les a développées. Donc Mitterrand était un grand homme et Thatcher était un monstre. Mais si vous regardez du début à la fin de Thatcher, c'est-à-dire de 78 à 91 à peu près, les dépenses sociales en Angleterre ont augmenté plus que les dépenses sociales en France. Parce que comme l'économie était très forte, l'État, les rentrées fiscales étaient très fortes, et l'État pouvait, dans le fond, faire... Alors que nous, en augmentant massivement les dépenses de l'État à l'instant T, à l'instant T plus 3, il n'y avait plus de croissance, et donc les dépenses sociales ne montaient pas, ou baissaient. Et donc ce que j'essaye de dire, c'est que une économie saine amène à un État sain amène à une économie saine qui amène à une forte hausse des capacités de l'État d'aider les plus démunis. Donc C'est pas on va retirer de l'argent aux pauvres, c'est qu'on va en fait aider les gens à gagner suffisamment d'argent pour qu'il y ait moins de pauvres et que ceux qui sont vraiment pauvres pour des raisons où ils ne peuvent rien soient vraiment aidés, quoi. Donc, encore une fois, c'est une inversion de la logique. Quand on est sorti du paradis terrestre, on ne nous a pas dit « dépense tout ton blé maintenant, et puis tu verras l'année prochaine, ça va croître à nouveau ». On nous a dit « tu bosses, tu transpires, et à ce moment-là, ça marchera, ça marchera ». Donc, le travail, l'invention précède la consommation, et non pas la consommation précède le travail et l'invention. C'est idiot. C'est complètement idiot. Mais c'est keynésien.
Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, je crois que ça correspond un peu à la mentalité de l'administration. C'est-à-dire que finalement, le pouvoir est dans l'administration et dans la République, ou dans l'État tel que c'est organisé, alors qu'en fait, en réalité, je vais pas dire le pouvoir, mais en tous les cas, la liberté, c'est celle des citoyens d'entreprendre, de créer de la richesse, de la valeur ajoutée. Et c'est ça qui devrait être reconnu en France et encouragé, et non pas finalement un État nounou comme on le connaît. Et pour revenir sur les dépenses sociales, aujourd'hui, peut-être les Français ont oublié, mais la France, c'est 1% de la population mondiale et c'est 15% du montant des aides sociales au niveau mondial. Donc c'est dire aujourd'hui à quel point l'État, finalement, est socialiste et a pris le pouvoir en France, contrairement à l'idée reçue que les gens... On entend beaucoup en France que que la France est un pays ultra-libéral. C'est exactement ça, ce qui est quand même une vaste blague.
Un État qui fait 60 ou 61% du PIB n'est pas libéral. C'est même pas possible, quoi.
Il n'est pas libéral, il ne sait pas lutter contre la pauvreté. On le voit très bien. Depuis 40 ans, il n'y a jamais eu autant de pauvres en France. C'est exponentiel, quoi.
Parce qu'il ne faut pas oublier que si une personne qui pourrait travailler devient dépendante, à ce moment-là, elle devient dépendante de l'État et elle va voter pour maintenir sa dépendance, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et donc, ce qui est affreux, ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, les politiques sociales servent à créer des pauvres qui deviennent dépendants et, de ce fait, voteront pour cet État. Donc, on est mal barré, quoi.
C'est le système romain. Rome avait mis ça en place.
Du pain et des jeux, tout à fait. C'est le vieux système. Ça s'est mal terminé. S'est terminé. D'ailleurs, on est passé de la République à l'Empire, puis ensuite à l'Empire, de l'Empire au grand n'importe quoi, quoi.
Et d'ailleurs, pour parler de l'Italie, les Italiens, c'est le pays de l'OCDE qui a le plus de dettes publiques sur la tête. Oui. Pour dire, finalement, jusqu'où ça va.
Non seulement, mais en plus, en Italie, il ne faut pas oublier qu'à cause de l'euro, ils ont maintenant un PIB par habitant qui est à peu près 20% plus bas qu'en 2000. C'est-à-dire, et nous maintenant, il faut, si on remonte à 2007, à peu près, depuis 2007, notre PIB a baissé par habitant. C'est-à-dire que la France... malgré les dépenses de l'État, ou plutôt à cause des dépenses de l'État, est en train de s'appauvrir. Chaque Français devient plus pauvre. Et on le voit bien quand on se promène. Moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, à Hong Kong, à Londres, aux États-Unis, partout. Et maintenant, quand je rentre en France, j'ai vraiment l'impression d'un pays qui s'appauvrit. Je vois des signes de pauvreté partout.
Ça saute aux yeux, les vêtements, etc.
Les gens dans la rue.
Quand on arrive à l'aéroport, quand on arrive à la gare du Nord, enfin, je veux dire, il y a quand même des moments où on a des... Un petit moment d'inquiétude, quoi. Donc, avoir réussi à transformer la France, qui était le pays où les travailleurs créaient de la beauté et avaient le sens de ce qu'on appelait la belle ouvrage, aimaient leur travail, en étaient fiers et tout, en faire une nation appauvrie et de gens qui sont pas heureux, c'est quand même un succès qui dépasse l'entendement, quoi.
C'est... Mais est-ce que c'est pas dû finalement à cet État qui veut l'égalité à tout prix, et non pas l'égalité des chances, mais l'égalité des gens, donc on n'est plus dans l'égalité des droits, mais l'égalité tout court. Et est-ce que finalement cet État qui est dirigé par l'administration, ça leur pose un problème finalement que des gens puissent avoir des libertés individuelles? Et on le voit bien aujourd'hui, il y a une restriction incroyable des libertés individuelles.
On a perdu dans les deux dernières années un nombre de droits fondamentaux comme jamais dans l'histoire de France. Enfin, je veux dire, c'est carrément 39-41, quoi. C'est, je vous raconte, je travaille avec un petit jeune qui est très bien, qui s'appelle Richard Détente, avec qui je fais des émissions d'ailleurs. Il est venu faire une émission ici de 3 jours, et donc il était dans un hôtel à 10h du soir, qui était ouvert, et il avait rien à bouffer. Donc on lui a dit, ben, je sais pas, il y a peut-être un Chinois ou quoi, là, le voir. Donc il est allé voir le Chinois, qui lui a dit, oh là là, c'est fermé, vous savez. Donc il a dit, ben, donnez-moi quelque chose à bouffer, tout est fermé. Hein. Et donc le Chinois lui a dit, alors vous allez vous cacher dans le hall de l'immeuble, et je vais venir vous amener du riz, un peu quelque chose. Il lui a dit, mais non, je vais attendre dehors. Il dit, mais non, parce qu'il y a la police dehors et tout. On avait l'impression qu'on était en 1941 et qu'il était en train d'éviter une descente de la Gestapo. Non, mais vous rendez compte.
On n'est pas très loin de la rue Lauriston, là, en plus.
On n'est pas très loin de la rue Lauriston, ce qui laisse des mauvais souvenirs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, mais vous rendez compte ce qui est en train de se passer? On a plus le droit de liberté, on n'a plus le droit de se réunir, on n'a plus le droit d'aller à la messe, on n'a plus le droit d'aller à l'enterrement de son père, enfin je veux dire...
Ben c'est le combat de l'Institut des Libertés, on le voit bien, l'Institut des Libertés, liberté au pluriel, des libertés concrètes, voilà. Enracinées, et non pas une liberté, ou comme disaient eux, une égalité abstraite, quoi. Et on revient à tout ce combat-là dont vous parlez, de la démocratie, des contre-pouvoirs que l'Institut des Libertés est, que contribuables associés est également.
Voilà, c'est ça. Et ça... Il faut bien que les Français se rendent compte qu'il y a une attaque délibérée contre les libertés fondamentales, qui sont les libertés qui nous ont été données à la naissance. Enfin, je veux dire, c'est un droit, c'est ce que dit la Constitution américaine. On est libre.
Et d'ailleurs, les contributions obligatoires, hein, les prélèvements obligatoires, c'est une privation des libertés. Celle de bénéficier totalement des fruits de son travail, c'est ce qui permet, à contrario de pays plus libéraux, ou en tout cas avec un État moins fort, de choisir peut-être sa complémentaire santé, ou de mettre plus d'argent dans les retraites, etc. Enfin bref, voilà, mais autrement, de faire des choix individuels.
Mais ce que vous dites est extraordinaire. Exactement. Ce qui est extraordinairement important, c'est que nous sommes tous d'accord pour qu'il faut qu'il y ait un État. Et nous sommes tous d'accord que cet État doit être financé par des impôts. Et il faut que ces impôts soient justes. Et, dit la théorie financière, et aussi qu'ils soient compréhensibles et faciles à lever. Vous voyez, donc en fait... Or, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous avez trois niveaux dans le fiscal. Vous payez l'État régalien, et puis dans les sociétés du nord de l'Europe, vous payez un certain nombre de choses, comme, je sais pas, l'éducation des enfants, etc. Et ensuite, la troisième étape, c'est quand des gens disent « je vais me servir de la fiscalité pour établir la justice ». Et ça se termine toujours dans des camps de concentration.
Tout à fait.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est pas le rôle de l'État d'établir la justice sur Terre. Parce que ma justice n'est pas celle d'un autre. Je veux dire, ma notion de la justice n'est pas la même. Il n'y a de justice comme il n'y a de morale qu'individuelle.
D'ailleurs, on le voit concrètement avec des aides aujourd'hui, si on le ramène aux contribuables. Hein, par exemple, les aides pour l'achat des véhicules électriques. C'est quand même l'ensemble des contributions obligatoires des Français qui payent le choix d'un individu d'aller acheter une voiture électrique pour laquelle il aurait une aide. Or, si on est retraité et qu'on n'a pas de voiture, ou même pas retraité mais qu'on n'a pas de voiture, je veux dire, pourquoi est-ce que sa contribution servirait à payer une voiture électrique?
C'est exactement. C'est les genres de trucs que vous devrez signaler. Par exemple, c'est ce que signalait Bastien aussi, pourquoi subventionner l'Opéra de Paris alors que le paysan dans la Creuse, lui, il y va pas souvent à l'Opéra de Paris.
La SNCF, 13 milliards d'euros subventionnés par le contribuable qui ne prend pas forcément le train. Ce qui est quand même,
et quand ils veulent le prendre, d'ailleurs, en général, ils se mettent en grève parce que c'est les vacances et qu'ils veulent le faire voir. Donc, le but, ça va être donc de voir dossier après dossier. Et je ne vais pas du tout orienter vos dossiers, mais il me semble que depuis que je suis dans ce pays, chaque fois qu'un Premier ministre arrive... Il crée des hautes autorités, des commissariats, des hauts commissariats, etc. Il doit y avoir un nombre de trucs où il y a des gars qui vont jamais et qui sont payés.
Les comités Théodule, par exemple.
Les comités Théodule, avec des voitures de fonction et des machins comme ça. Je me suis laissé dire qu'il y avait 13 chefs à Matignon. Vous voyez, 13 chefs professionnels qui faisaient la cuisine tous les jours. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Donc, il doit y avoir une façon de... Le président de la République portugais, qui est un brave homme, il vient tous les jours, je crois, en vélo, le président, je crois.
Ça fait complètement.
Donc, pourquoi ces gens-là se croient-ils obligés de vivre dans cette espèce de... Les ors de la République, ils vivent noblement?
Bien sûr.
On voit bien, la plupart des palais de la République sont des palais de l'ancienne monarchie, hein, du palais Bourbon à l'Élysée, etc.
Ça leur donne de mauvaises habitudes, je trouve que
c'était sans doute peut-être plus dispendieux, d'ailleurs. On m'avait raconté une
Pourquoi
chose,
on c'était... Pourquoi on met pas la Chambre des députés à Limoges?
Ouais, par exemple.
J'ai rien contre Limoges, mais je veux dire... Il créerait
il y a quelques années, quand Juan Carlos était venu au Palais Bourbon, il avait été extrêmement choqué, son entourage avait été extrêmement choqué par tout le décorum. Je crois que c'était Seguin qui était à la tête de l'Assemblée à l'époque, avec tous ces gardes républicains qui se lèvent, etc. Ils étaient estomaqués, les Espagnols, qui avaient un train de vie, ou du moins leur représentant était venu avec le roi, il y avait la reine, mais un petit comité, quoi. Et là, il était estomaqué de voir un petit peu tout ce falbala, quoi. Économique.
Ils se prennent tous pour le 14.
Ça me fait penser à cette maxime de Frédéric Bastiat qui disait que l'État, c'est la grande fiction par laquelle chacun s'efforce de vivre aux dépens des autres. Et c'est exactement ça. Et dans la série Gaspillage, il y en a un qui me choque particulièrement en ce moment, c'est François Bayrou.
Au
commissariat au plan, alors que il a déjà été défini, établi, proposé, présenté par le Premier ministre, et donc je comprends absolument pas ce que vient faire François Bayrou à la tête de l'administration.
Pourquoi y a-t-il encore un commissariat du plan en France ?
C'est exactement ça.
Vous savez il y avait Malraux qui racontait une histoire que j'aime beaucoup, mais avec Malraux, il faut se méfier, parce que parfois il les inventait. Hein. Et donc il disait qu'au début de la guerre de 14, il y avait, d'un seul coup, l'armée anglaise s'est rendue compte qu'ils avaient des maîtres chats. Qui dressait des chats, qui était dans tous les régiments, qui s'occupait des chats. Et donc, il y a le haut et le major qui s'est dit, mais pourquoi on a des chats et tout? Donc, il y a des études qui ont été faites. C'est qu'au moment de la bataille d'Azincourt, l'arme suprême, c'était le longbow, vous savez, le grand arc, qui avait des cordes sur lesquelles on mettait de la graisse de cochon, et les rats les bouffaient. Donc, on avait créé, en 1300, des compagnies de chats pour empêcher les rats de bouffer les cordes des arcs. Et bien, 7 siècles après, elles étaient toujours là, et personne ne savait pourquoi, quoi. Donc, il doit y avoir un nombre de maîtres chats dans l'administration française qui doit être considérable. Il faut peut-être essayer de savoir pourquoi ils sont là. Et je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui se disent, mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi je suis là, quoi? Bayrou, un commissariat au plan en France?
Complètement. Alors, je suis content, si on a calculé que les fameux 100 milliards d'euros du plan, avec le nombre de créations d'emplois annoncées par Jean Castex, en fait, ça représentait 160 000 euros par emploi créé, quoi. Et donc, il y a un moment, il vaut mieux donner finalement ces 160 000 euros directement.
Ou baisser les impôts de 160 000 euros sur moi.
Exactement. Ce qui créera probablement de l'emploi par ailleurs.
Absolument, tout de suite.
Plus pérenne. Et voilà où est-ce que passe l'argent, quoi.
Et voilà
où
est-ce que passe l'argent. Alors,
un petit mot. Allez. Juste, chaque année, l'OCDE fait un parallèlement. Vous savez, l'OCDE fait des grands comparatifs européens. Et par rapport à la bureaucratie dont vous parliez, on sait que la suradministration française par rapport à l'Allemagne, par exemple, en termes de ces gros services, du coût de productivité des services publics, ils appellent ça comme ça, est de 97 milliards, quoi. Donc, il y a un gisement d'économie. On est 84 milliards au-dessus de la moyenne des pays de la zone euro, quoi. Donc, il y a un gisement vraiment d'économie en France qui est considérable, quoi.
Alors là, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup écrit là-dessus aussi. Je crois que la fonction publique française coûte 70% de plus que la fonction publique allemande, ouais, pour un service. Et on a vu l'efficacité de cette fonction publique, en particulier, on a la dernière crise du Covid. Vous voyez ça, ils se sont couverts de gloire, là. Ça a été remarquable. Bon. Mais je voudrais faire une différence essentielle, c'est que moi j'ai été d'une famille de fonctionnaires depuis toujours, si vous voulez, parce que j'étais comme ça, quoi, et de hauts fonctionnaires. Et dans le fond, vous avez deux, c'est des gens qui font leur boulot, des fonctionnaires qui travaillent, j'imagine, il y en a partout. Et puis vous avez des passagers clandestins, des gens qui sont là, qui dans le fond se nourrissent sur la bête et ne ramènent rien. J'imagine que personne ne va gueuler si on augmente un peu le salaire des infirmières ou des institutrices.
Ou même des professeurs.
Ou même des professeurs des institutrices, parce qu'ils ne font pas un boulot facile. Hein, mais je crois qu'une grosse partie du pillage se passe au sommet de la pyramide. Je crois, si vous voulez, quand je vois qu'un homme comme Hollande, je crois qu'il touche quelque chose comme 350 000 ou 400 000 euros de retraite qui toutes viennent de l'État, vous ne pouvez pas vous en pencher que quand De Gaulle est parti, il n'a accepté que sa retraite de colonel, puisqu'il était, il n'a rien pris d'autre. Donc peut-être une des choses auxquelles il faudrait penser, c'est que ceux qui ont travaillé dans la fonction publique ne puissent avoir qu'une retraite de la fonction publique, à eux de la choisir. Mais ils ne peuvent pas avoir 6 retraites ou 12 retraites, comme le gars qui s'occupait des retraites. Vous savez qu'il y a le gars qui a été viré parce qu'il avait, l'année dernière.
Oui.
Vous savez,
Delevoye.
Il avait 12 retraites, je crois. 12 retraites. Toutes payées par la fonction publique. C'est une sorte de fou, quoi.
Ça fait partie des combats de contraire associés, en fait. Bon, on expliquera dans cette émission un peu, parce qu'on a la faiblesse de croire qu'on fait comme, on essaie de faire pas mal de choses, et notamment à l'Assemblée nationale, et on avait poussé une proposition de loi à l'Assemblée nationale, déposée par un député dont l'objectif était de réformer ce système de retraite des anciens présidents de la République. Chaque président de la République, bon, maintenant il y en a un petit peu moins, il y en a deux qui sont morts récemment, en plus de toutes ces retraites d'État, etc., touche une notation de 5 200 euros versée par le contribuable. C'est un truc, un un supplément. Donc nous, on avait poussé cette proposition de loi pour que cette dotation spéciale soit supprimée. Quoi. C'est symbolique, certes, mais c'est important.
Mais oui, à force, si vous voulez, de ne pas supprimer les symboles, les symboles qui finissent par coûter très cher.
C'est ce qui est le plus politique et ce qui marque l'opinion. Est-ce qui peut aider les gens à faire changer les choses, ouais.
Justement, en termes de symboles, on a lancé une opération chez Contrôle Associé il n'y a pas très longtemps, depuis la crise du Covid. C'est un appel à la solidarité des hauts fonctionnaires qui gagnent plus de 5 500 € par mois de traitement. Et ça rejoint justement en fait ce que vous disiez, hein, c'est-à-dire qu'il y a des montants de retraite colossaux en fait pour certains hauts fonctionnaires. Et ce qu'on a demandé finalement, c'est que tous les hauts fonctionnaires qui gagnent plus de 5 500 € par mois abondent à hauteur de 16%, qui était la différence du chômage partiel non perçu par les salariés du secteur privé, et alimentent le fonds d'aide aux artisans commerçants, puisque c'est l'économie, et exactement, puisque eux souffrent aujourd'hui, et qui nous semblait, puisque la France est un pays solidaire, et que l'État, la République, n'a de cesse de nous répéter à longueur de journée qu'on doit être solidaire, eh bien on pensait que la haute administration devait solidaire, exactement, des commerçants artisans. Alors c'est quand même une pétition qui a recueilli aujourd'hui plus de 50 000 signatures, donc un grand nombre de Français soutiennent ce projet. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à venir signer cette pétition, et ça nous permettra d'aller voir Jean Castex et peut-être Emmanuel Macron, et j'espère qu'il sera sensible à cet appel-là, pour que justement on fasse pression, pour qu'il y ait un peu plus de solidarité, puis surtout de bon sens, parce que finalement, comme vous disiez, quand on s'appelle François Hollande et qu'on a plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de retraite, on est loin du bon sens. C'est presque de l'indécence, en fait, en réalité.
En fait, c'est de l'indécence pure et simple. Surtout que ce sérum n'arrêtait pas de dire qu'il haïssait les riches. Donc,
pour un président de gauche.
Pour un président de gauche. Mais ce qui est amusant, c'est que si vous voulez, c'est que moi, qui suis qu'un pauvre entrepreneur qui a pris des risques toute sa vie et tout, si je voulais avoir 350 000 euros garantis par l'État indexés sur l'inflation, il faudrait que j'aie un capital d'au moins 40 millions d'euros. Donc, il me semblerait logique, à ce moment-là, d'imposer sur le capital virtuel. Moi, je suis tout à fait pour un impôt sur la fortune de ce capital virtuel que ces gars-là se sont constitués sans prendre aucun risque. Vous voyez, ça me semblerait... moi, je suis pour la justice fiscale. Donc, vous touchez 350 000 euros sans avoir pris aucun risque, 40 millions d'euros, ben, vous devez au moins aller 100 à 130 000 euros au titre du capital que vous êtes constitué par an, quoi. C'est la moindre des choses.
Et garantie à vie, parce que la vraie rente, en fait, aujourd'hui, finalement...
Et qui peut filer à sa femme, surtout si on a pris une plus jeune au milieu, quoi.
Exact.
Ce que beaucoup d'entre eux ont fait.
Vous pensez à quelque chose, non? Quelqu'un en particulier?
Non, mais
la vraie rente, aujourd'hui, finalement, c'est l'administration, en fait, puisqu'avec l'emploi à vie...
C'est exactement ça. C'est devenu un endroit où des gens cherchent à se capturer des rentes au niveau personnel. Dans ma famille, bon, j'ai eu des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires, comme je l'ai dit, mais... aucun des moines soldats de la République qui ont travaillé avec De Gaulle pour l'énergie nucléaire ou pour la constitution des grands groupes pétroliers français, etc., aucun d'entre eux n'est mort riche. Ils allaient prendre leur retraite en Provence, ils n'avaient pas un rond, quoi, je veux dire. Donc, ces moines soldats qui ont créé la France dans la haute administration, à partir des années Giscard, et Philippe de Villiers l'a très bien montré dans son livre, ils n'étaient plus là pour servir, mais pour se servir. Et là, il y a eu un changement de... En quelque sorte, on peut respecter un haut fonctionnaire et le pouvoir qu'il exerce s'il est absolument intouchable. Mais à partir du moment où on a l'impression qu'il est corrompu, ça devient insupportable, puisqu'il ne prend aucun risque et qu'il s'en met plein les fouilles. C'est vraiment... Donc il me semble que là, il y a un vrai problème d'éthique de la haute administration. Et comme la haute administration a fusionné avec la fonction politique sous Giscard, et qu'on ne s'en est jamais séparé, on se retrouve dans un monde où, par exemple, M. Juppé est battu, c'est pas grave, il retourne à l'inspection des finances, en attendant de se présenter la prochaine fois. Mais si moi, qui suis un entrepreneur, je me présente, je suis battu, ben, la fois d'après, il se trouve que j'ai plus de clients et que je rame, quoi. Donc, on a bâti un système où les gens qui ne prennent pas de risques ont toute la rentabilité, et les gens qui prennent des risques n'ont aucune rentabilité. Ben, ça peut pas marcher. Enfin, ça ne peut pas marcher. Ça nous amène à un désastre.
D'ailleurs, on voit bien, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle M. Macron est contre l'héritage, puisqu'il souhaite faire monter les droits de succession dans l'héritage. Et il explique aujourd'hui, finalement, que l'héritage, ce n'est pas une bonne chose et qu'il faut vivre à l'instant T et donc tout dépenser. Alors qu'en fait, en réalité, dans ce contexte-là, c'est quand même l'administration qui jouit finalement de moyens. Et que finalement, quand on est dans le peuple et qu'on essaye de se constituer sa propre retraite, d'être responsable, etc., en plus, on nous l'interdit, quoi, finalement.
Et ce que disait Balzac, c'est Il n'y a qu'une seule chose qui est plus forte que le désir d'une femme d'avoir des enfants quand elle a 20 ans, c'est le désir d'un homme quand il en a 60 de s'occuper de sa progéniture. C'est-à-dire que quand vous avez arrivé à un certain âge, vous avez des enfants, et vous vous dites, bon, machin, d'abord, ils sont bons à rien, ces couillons, c'est pas vrai, mais enfin, vous craignez qu'ils ne soient bons à rien, et donc vous essayez de les protéger le plus longtemps possible, même si vous n'êtes plus là. Donc enlever, par exemple, vous prenez en bourse les sociétés familiales, qui sont gérées par la même famille depuis très longtemps, elles marchent beaucoup mieux que les sociétés qui ne sont pas familiales. Et en Allemagne, ils ont fait des processus spéciaux pour que les sociétés du Mittel Germany là, puissent passer dans les familles, parce qu'ils savent très bien que c'est le cas. Donc, encore une fois, M. Macron ne comprend rien.
D'ailleurs, c'est un des drames de la fiscalité française. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des détenteurs de propriétaires de... Exactement,
des fleurons français.
Qui sont vendus, ouais. Moi, j'ai travaillé pour un dont la famille, les héritiers, n'avaient pas les moyens de payer les droits de succession et qui ont été obligés de vendre finalement à la découpe l'entreprise parce qu'ils ne pouvaient pas faire face aux droits de succession. Quoi. Alors ça a changé maintenant, mais il y a toute une époque où effectivement on a démantelé une part de l'industrie française à cause de la fiscalité française.
À cause de la fiscalité.
Et je ne peux pas croire à un seul instant que ce soit le fruit du hasard. Je crois qu'il y a une vraie volonté finalement de l'État de prendre le pouvoir finalement. Et c'est un peu ce qu'avait dit François Hollande avant 2012 en disant si je suis élu, je mettrai la finance à genoux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase très forte, ce qui est une autre manière de dire le pouvoir c'est nous et le pouvoir c'est l'État. Et non pas finalement le secteur privé.
Voilà, et c'est-à-dire que dans le fond, on est dans une société où le pouvoir, dans sa grande bonté, nous délègue quelques libertés. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est nous qui sommes souverains, et on accepte d'être gouverné par l'État, à condition qu'il fasse du bon boulot. Ce qui veut dire qu'on puisse s'en débarrasser des gens incompétents. Mais je sais pas si, mais je vous raconte une réalité, c'est que Mitterrand avait commencé sa campagne politique, avant sa carrière politique, avant Truman. Et donc, plus personne ne parle de Truman, je veux dire, il a quitté le pouvoir en 51, je sais pas quoi, et Mitterrand était toujours là. Donc, j'ai eu Chirac pendant 40 ans, j'ai eu Juppé pendant 40 ans, et ces gars-là, personne, ils ne disparaissent jamais. Ce que me disait un de mes bons amis anglais, qui était un homme politique, il me disait, la démocratie, c'est pas difficile, c'est on vote pour un gars en se disant qu'il est probablement incompétent, et quand on est certain 5 ans après, on le vire. Oui. Donc l'essentiel, c'est le vote fréquent et la possibilité de virer les élites. Aussi bien à Paris que maintenant à Bruxelles, on a des élites qui sont les mêmes et qui sont invirables. Donc,
mais ce qui est dingue en même temps, c'est que ces gens-là sont encroutés dans le système, mais on a toujours pensé que par court-termisme. On n'a pas anticipé les problèmes, ils n'ont pas su gouverner, ils n'ont pas su prévoir. Ils sont là depuis longtemps et ça continue de couler.
Mais là,
et
oui,
parce que c'est des décisions toujours pour la prochaine élection.
Là, si vous voulez, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord, parce que j'en parle à un certain nombre qui sont mes amis, et ils me disent toujours, mais Charles, tu ne comprends pas, ça n'a jamais été aussi bien pour nous. Jamais dans l'histoire de France... La technocratie administrative n'a autant pété dans la soie. Donc, pour eux, ils ne gouvernent pas dans le court-termisme. Ils gouvernent sans arrêt pour le maintien du pouvoir de leur caste. Et c'est ça le but. C'est pas la France, ils n'en ont rien à foutre. C'est pas la croissance française, c'est pas le chômage. C'est le maintien au pouvoir de leur caste. C'est ça l'horreur.
C'est un dévoiement de la démocratie, finalement. Quoi.
Ah, c'est une capture de la démocratie par une classe criminelle.
Complètement. Et d'ailleurs, une des propositions de contribuer associé, c'était de dire dans l'administration, lorsqu'on se présente à une élection, c'était qu'on devait démissionner, comme dans n'importe quel pays.
Pour toujours de l'administration.
Exactement. Alors qu'on sait que, par exemple, en Angleterre, le seul fait de se présenter à une élection oblige à démissionner
de son statut. En Suisse, en Angleterre, aux États-Unis, le fonctionnaire ne peut pas peut se présenter, mais à ce moment-là, il donne sa démission.
Ce qui fausse complètement la représentativité, comme à l'Assemblée nationale, la précédente mandature, où il y avait 50% des députés qui étaient des agents publics. Donc on a bien compris que derrière, forcément, toutes les décisions qui vont être prises vont aller quand même dans le sens de la défense de la fonction publique.
Exactement. Et donc, c'est ce que je dis toujours, si on avait une assemblée où il y avait que des garçons coiffeurs, ils prendraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs.
Tout à fait.
Et ben, il n'y a que des fonctionnaires, et donc ils prennent des mesures favorables aux fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils favorisent dans la société ceux qui ne prennent pas de risques. Et donc, ils tapent sur les gens qui prennent des risques. Et donc, comme la croissance, vous savez, c'est le risque, c'est la création destructrice de ce brave Schumpeter, et bien on n'est pas bien... Donc vous allez, pour prendre cette émission, et on compte sur vous, et tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, d'abord il faut que ceux qui nous écoutent nous aident. Je ne dis pas financièrement, c'est pas... la plupart des gens pensent que le fric est important. Ce qui mène le monde, c'est l'esprit, hein, c'est pas l'argent. Donc, il faut qu'on fasse circuler l'esprit dans ce pays à nouveau, qu'on puisse à nouveau débattre, qu'on puisse à nouveau ne pas être d'accord si on se fait rester. Donc, encore une fois, ce qu'il faut, c'est simplement amener l'information aux gens, et le citoyen est assez grand pour décider de ce qu'il en fait, comment il la traite et comment il s'en sert. Mais aujourd'hui, nous sommes passés dans une situation où ne pas être d'accord, c'est être excommunié. C'est-à-dire, il y a le camp du bien et le camp du mal. Et malheureusement, je tiens à vous dire que nous sommes dans le camp du mal.
on assume.
Alors, bon, les sujets qui fâchent qu'on traite régulièrement chez Contrôleur Associé, c'est évidemment le trop d'imposition, c'est le niveau de dépenses publiques, c'est la dette qui sont des impôts.
Et l'incompréhensibilité quand vous faites des déclarations fiscales, je ne comprends rien.
La bureaucratie, l'écologie et l'enfumage écologique.
Absolument.
La dépense publique étant partout, on peut parler de tous les sujets. On peut parler culture, on peut parler politique de la ville.
Et c'est ce qu'on va faire.
On peut parler des armées, etc. C'est crossover, comme on dit.
Absolument. Par exemple, les armées, ben, moi je suis une famille d'officiers, ben, les pauvres militaires, ils rigolent pas. Hein.
Non.
Et aujourd'hui, c'est quand même le comble, c'est qu'un certain nombre de militaires sont obligés de se payer leur propre équipement.
Oui, j'ai vu ça.
Des gilets pare-balles, des chaussures, etc. Parce que l'armée ne leur fournit pas finalement, quoi. Donc ce qui est quand même.
Et c'est vrai dans la police aussi.
On vient diffuser là, sur notre site touscontribuables.org un témoignage évidemment anonyme d'un policier qui raconte tout cela, les dysfonctionnements bureaucratiques dans la police et ses collègues sont obligés de s'acheter leurs ceinturons, etc., leurs chaussures. Alors que le budget des polices a encore augmenté, puis lui, il explique où ça va selon lui, quoi.
D'ailleurs, c'est le drame de l'hôpital, on l'a bien vu là avec le coronavirus, hein, c'est que en France, où il y a beaucoup d'argent qui va dans le système de santé, hein, qui est le deuxième poste de dépenses des dépenses sociales, hein, après les retraites, eh bien aujourd'hui, dans l'hôpital public, quand il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, sur 10 personnels soignants, il y avait 8 soignants, enfin 10 personnels dans l'hôpital, il y a 8 soignants, 2 administratifs, aujourd'hui, il y a 5 soignants, 5 administratifs, et c'est là où passe l'argent.
Il ne faut pas oublier que les 5 administratifs, ils n'ont qu'une ambition, c'est d'empêcher le soignant de faire son boulot.
Exactement.
Comme on l'a vu avec le docteur Raoult, parce qu'ils ont l'air d'être très fâchés contre Raoult, mais apparemment, le nombre de morts à Marseille est beaucoup plus bas que partout ailleurs, donc il y a un loup quelque part, quoi. Il y a quelqu'un qui a dû soigner convenablement, quoi, mais ça, c'est le pire, hein, c'est parce que faut pas oublier que ces gens-là détestent la compétition et la compétence, et qui d'ailleurs doivent avoir la même racine. Mais écoutez, je suis très content de vous avoir à bord, j'espère que vous serez content
merci
de venir ici.
Bah, merci à vous.
Parce que ça, si j'ose dire, c'est pas le travail qui va nous manquer.
Non.
Donc, déjà, il y a une émission qui se fait sans nous avec des policiers, vous savez, qui se passe dans l'ordre public. Ouais. Il y a 3 anciens commissaires généraux de la police qui viennent et qui en parlent. Vous avez d'autres émissions qui se passent sur la géopolitique, etc. Donc, ça me ferait plaisir que petit à petit, l'Institut des Libertés devienne un endroit où il y a des émissions. Si les gens veulent savoir quelque chose, ben, ils peuvent y aller dessus et ils n'auront pas une langue de bois, quoi.
Bon. Alors, c'est ce qu'on va faire, et puis on aura des invités. On espère vous voir régulièrement, Charles. Mais
il ne faut pas m'inviter parce qu'il y a plus moi qui parle.
Mais aussi d'autres invités sur les sujets thématiques. Et on organise régulièrement des rendez-vous à l'Assemblée nationale avec des experts, etc. Et donc, on a l'intention justement d'offrir cette qualité d'expertise à tout le monde et aux auditeurs de l'Institut des Libertés Médias.
Et qu'ils n'hésitent pas à vous poser des questions, parce qu'il va falloir que aussi j'imagine que vous répondez beaucoup de questions déjà. J'ai vu dans vos publications. Mais là, il y aura peut-être un lien nouveau qui se créera pour vous atteindre.
C'est tant mieux.
C'est l'idée.
Ben écoutez,
merci Charles.
Ça m'a fait grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.